France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Jean-Mathieu Pernat.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT. Alors nous avons reçu plusieurs mails depuis dimanche soir d'auditeurs nous disant « Oh ça va, la présidentielle est terminée, on peut parler d'autre chose ». Alors c'est vrai, mais quoi en fait hein, parce que alors je peux vous dire parce qu'aujourd'hui par exemple j'ai reçu le livre d'un vétérinaire britannique intitulé Dans la peau d'une bête dans laquelle il relate ses expériences qui lui ont permis de se glisser dans la peau d'un blaireau, d'une loutre ou d'un martinet. Alors on a hésité à en faire une demi-heure je dois vous le dire, et puis finalement on est revenu au classique, c'est-à-dire la politique ça va être plus simple, et eux ils en sont très heureux d'ailleurs de parler de politique. Et ce soir les informés de France Info reçoivent le politologue Alexis Massard, bonsoir.
Bonsoir.
Également la vice-présidente de la région Grand Est et porte-parole des Républicains Valérie Debord, bonsoir. Éric Métout de l'Express, bonsoir. Et Audrey Goutard de la rédaction de France Télévisions, bonsoir. Et donc ce soir, du bingo politique sur un éventuel Premier ministre de droite pour Macron, Marion Maréchal Le Pen, nouvelle tuile pour le Front National, Manuel Valls se lance dans le feuilleton, mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. Dimanche 10h, ce sera donc officiellement le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, puisque c'est à 7h qu'il serrera la main de François Hollande et que celui-ci laissera la place, dernière heure du quinquennat Hollande, et beaucoup de choses à se rappeler et à commenter entre deux cartons, un relevé de compteur et un conseil des ministres. François Hollande a tout de même trouvé le temps de prononcer un dernier discours au Jardin du Luxembourg à Paris, au cours de la 12e journée des mémoires de la traite de l'esclavage et de leur abolition. Une dernière prise de parole très politique et même un message pour son successeur, François Hollande.
Oui, nous devons continuer à nous battre contre les divisions qui déchirent les peuples, y compris ici, contre les discours qui jettent les gens les uns contre les autres, contre les intégristes, contre les obscurantistes, contre les communautaristes. Il y a encore beaucoup à faire, Monsieur le Président.
Voilà, c'était François Hollande, donc cet après-midi au Jardin du Luxembourg. Justement, Alexis Massard, quand on voit ce genre de phrase, quand il s'adresse directement à Emmanuel Macron, on l'a vu de nouveau très proche d'Emmanuel Macron, presque fraternel comme le 8 mai. C'est-à-dire qu'on assiste à chaque fois, vous pensez là, à un passage de relais.
Lui, c'est son objectif d'avoir cette posture-là, sachant que il quitte son costume de président de la République, donc il redevient un peu plus l'homme François Hollande. Il est assez content, quand même, j'imagine, de ne pas passer le relais à Marine Le Pen par rapport à la configuration du second tour. Donc ça le rassure quand même de ne pas rester dans l'histoire avec cette image-là. Et quelque part, j'ai représenté aussi Emmanuel Macron comme son successeur, revient à remettre un petit peu le bilan du quinquennat un peu plus haut qu'il n'était auparavant.
Valérie Debord, vous, ces différents gestes, on l'a vu, en effet, presque affectueux, le 8 mai, aller vers Emmanuel Macron. C'est quoi? C'est vraiment un passage de relais, une succession?
Politiquement, je ne suis pas sûre que ce soit rendre vraiment service à un nouveau président, sachant que l'héritier n'est pas une thématique que lui souhaite mettre en place s'il veut vraiment recomposer. Après, je me mets à la place de François Hollande. C'est quand même l'homme qui aura fait qu'au premier tour de l'élection présidentielle, on a eu 40% d'extrême. C'est à la suite de son quinquennat, qui est un échec absolument majeur. Je ne parle pas des échecs économiques et sociaux. Donc c'est sûr qu'essayer de redorer son blason, c'est sûr que ça doit être tentant. Je pense que ça va quand même être extrêmement compliqué.
Alors Audrey Goutard, juste avant ça, il y a eu un dernier conseil des ministres. Et François Hollande a souligné, je cite, à quel point, je cite, l'absence de dialogue social pouvait coûter cher. Bon, on a pu se rendre compte de Alouel Khomri il y a un an pile. C'est un avertissement pour celui qui veut gouverner par ordonnance, en fait.
C'est un avertissement, et puis c'est aussi la reconnaissance d'une attitude qu'il n'a pas su avoir ou qu'il transmet quelque chose effectivement à son successeur. Je voudrais juste revenir sur cette cérémonie. Vous avez noté le lapsus, magnifique lapsus de François Hollande lorsqu'il s'adresse, il se retourne vers le futur président et il évoque les crimes de lèse-humanité et il dit les crimes de lèse-majesté. Donc effectivement, on comprend qu'il transmet quelque chose, qu'il accepte quelque chose, sa gestuelle est là, il le tient par le bras, il le tient par l'épaule, etc. Mais néanmoins, il y a certainement un point en travers de la gorge qui ne passe pas.
Éric Métou, justement, sur cette absence de dialogue social, c'est ce dont beaucoup de gens discutent en ce moment. On voit par exemple la CGT qui implore Emmanuel Macron de dire il ne faut pas aller par ordonnance. Et la CFDT qui dit il faut ouvrir, il faut qu'il attende pour se prononcer. C'est là-dessus, de nouveau, que là, ça va se passer, ce dialogue social que François Hollande a essayé de mettre en place. Et qui n'a pas été
mais c'est pas le dialogue social, de faire passer ces mesures sur ordonnance. Le dialogue social, il a dit qu'il l'aurait. C'est le dialogue parlementaire qui veut passer outre. Donc le dialogue social, pour l'instant, il s'est pas exprimé sur le sujet. Et quand on connaît l'inspiration qu'il a puisée à la CFDT, il n'y a pas de raison qu'il le mette pas en place. Donc que François Hollande fasse appel au dialogue social, alors que c'est quand même l'homme du 49-3 sur la loi M. Connery, c'est un peu gonflé.
Et même la loi Macron.
Qu'il avait fait passer contre l'avis de son ministre.
Ouais, Alexis Nassar, vous vouliez réagir, non ? Non, je voyais. Non,
mais sur le dialogue social, en fait, l'image aussi qui ressort, c'est la volonté de faire redescendre d'un niveau le dialogue social. Genre dans ses objectifs d'ordonnance, c'est rétablir davantage le dialogue au sein de l'entreprise et passer outre progressivement les grandes centrales syndicales. C'est ça aussi qui est en train de se jouer.
Valérie Debord, cette histoire d'ordonnance chez vous, chez les Républicains, c'est finalement une méthode que vous pourriez approuver ? François Fillon lui-même avait parlé d'ordonnance.
Bon, déjà, c'est dans la Constitution, donc il ne s'agit pas de quelque chose qui serait en dehors des textes. Ensuite, il faut une loi d'habilitation. Oui. Donc, le président sera néanmoins obligé, via son gouvernement, de proposer cette loi d'habilitation, qui devra en plus être à l'issue soumise au vote du Parlement en navette. Donc,
en navette, juste j'explique, c'est
Sénat. C'est-à-dire à la fois à l'Assemblée et au Sénat. Donc, c'est pas si simple que ça. Si vous voulez, derrière le mot d'ordonnance, beaucoup de gens voient les ordonnances du général de Gaulle et cette espèce en fait d'histoire comme ça, un petit peu guerrière où on va vite. C'est beaucoup plus compliqué que
Mais
ça.
Mais sur la loi travail d'Emmanuel Macron, vous seriez prêt à le soutenir, voter justement une loi cadre d'ordonnance.
Nous, on est relativement simple. Si vous voulez, à partir du moment où le président, nous souhaitons avoir évidemment une majorité au Parlement, à partir du moment où le président proposerait des choses positives. Pourquoi ne pas aller dans ce sens-là ? Il a proposé les heures supplémentaires défiscalisées. C'est notre programme. On ira évidemment dans ce sens-là. Sur la loi travail, la revoir, les 35 heures, évidemment. Nous souhaiterions même aller encore plus loin. Donc, on voit très bien qu'il y a des choses sur lesquelles il faut réfléchir plus en coalition qu'en opposition frontale. En plus, je pense que le temps est venu d'avoir quelque chose de beaucoup plus apaisé, beaucoup plus serein dans notre société. Et en la matière, il n'y a pas d'opposition frontale à avoir quand il y a une volonté de travailler en commun.
Alors, on va continuer à en parler, justement, de François Hollande, de Emmanuel Macron, de la gauche. Bref, beaucoup de choses dans un instant. L'info à 20h10, Stéphane Milhomme.
Le gouvernement démissionne ce soir. C'est la suite logique de l'élection dimanche dernier d'Emmanuel Macron. Après le dernier conseil des ministres ce matin à l'Élysée, les ministres sont chargés d'expédier les affaires courantes. Passation de pouvoir entre Hollande et Macron dimanche prochain à 10h. Jean-Luc Mélenchon ira demain à la rencontre des Marseillais juste avant d'officialiser sa candidature aux législatives dans la 4e circonscription. Le chef de la France insoumise a réalisé un très bon score dans ce secteur lors de la présidentielle. Colère de Patrick Mennucci pour le député socialiste sortant qui craint un combat gauche contre gauche au second tour de cette élection. Une journée encore compliquée pour Manuel Valls. L'ancien Premier ministre ne remplit pas à ce jour les conditions d'une investiture. Parole de Jean-Paul Delevoye qui gère le dossier pour La République En Marche. Ça ne va pas mieux entre le PS et Valls. L'ancien chef du gouvernement est déféré devant la commission des conflits du Parti Socialiste et il risque l'exclusion. La deuxième demi-finale de la Ligue des Champions avec le match retour ce soir entre l'Atlético et le Real Madrid. À l'aller, ce derby espagnol de football avait été remporté par le Real 3-0. C'est à 20h45 la suite. Et puis à Paris, le nouveau gestionnaire des Vélib promet de reprendre quasiment tous les 300 salariés. Laurent Merca, le patron de Smooth, le promet sur France Info. Les nouveaux Vélib seront plus légers et 30% seront électriques. Ce sera à partir du 1er janvier prochain et toujours en libre service.
France Info. 20h, 21h, les informés. Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons donc du dernier discours de François Hollande de son quinquennat, c'était ce matin. Et c'est vrai que avec François Hollande, aujourd'hui, c'était le Conseil des ministres, c'était le dernier Conseil des ministres. Donc les derniers ministres qu'on a pu voir descendre du perron de l'Élysée, le gouvernement a démissionné ce soir. Et j'avoue, aux informés de France Info, il y en a un qui nous manquera, ce n'est pas du tout un point de vue politique, mais c'est Stéphane Le Foll, parce que Stéphane Le Foll, en fait, a souvent fait, voilà, on a souvent parlé pour ses points presse, ça faisait 3 ans qu'il faisait des points presse après le Conseil des ministres, et il y avait toujours des petites sorties assez étonnantes pour un ministre en place, et bien aujourd'hui, il n'a pas dérogé à la règle, voilà comment il a terminé son point presse, son dernier point presse du quinquennat de François Hollande, on l'écoute, Stéphane Le Foll.
Bon, alors il y a du Brie et du Beaujolais, presque nouveau. Voilà. Donc je vous invite à partager ce petit vin et ce petit fromage ensemble. Merci en tout cas à tous et puis à d'autres occasions.
Voilà, donc c'était Stéphane Le Foll, le dernier point presse. Juste, Audrey Goutard, pour revenir une dernière fois, on va beaucoup parler de François Hollande, bien sûr, ces prochains jours et même la prochaine semaine. Il y a 5 ans, pile, François Hollande était élu avec un slogan, un président normal.
Eh oui.
Quand vous regardez ce qui s'est passé pendant 5 ans, est-ce que c'est possible d'être un président normal, finalement, d'après vous?
L'histoire a montré que non, puisque finalement, il a été élu comme président normal, et puis finalement, il a pris l'ampleur de sa mission petit à petit, et il a terminé comme un président de symbole fort. Alors, c'est vrai qu'il y a eu les attentats, etc., mais il est sorti complètement de cette espèce de normalité. C'est drôle d'ailleurs, parce que je discutais là justement avec les services d'ordre. Du président normal, parce qu'aujourd'hui la relève, ça va être, ils vont devoir se protéger Macron, et l'un de leurs chefs se rappelait, mais la gorge nouée, effectivement, de cette présidence normale où François Hollande, souvenez-vous, prenait le train tout seul, allait chercher sa baguette de pain, c'était ça la présidence normale, et c'était un enfer pour les services de sécurité. Et là, il me disait qu'effectivement aujourd'hui le président Hollande était un président de la République incarné, etc. Donc la présidence telle qu'on l'a connue il y a 5 ans, je pense que ça ne recommencera pas de la même manière.
Et juste une chose, sur le documentaire sur Emmanuel Macron sur TF1, il y a cette phrase qui est terrible d'Emmanuel Macron quand il est à Whirlpool et quand on lui dit « mais tu ne peux pas aller au milieu des salariés, il faut que tu sois protégé », il dit « bah regardez François Hollande, il est trop protégé et on ne l'entend plus, il est mort même ».
L'expression est terrible.
C'est terrible. Allez, on va parler d'un autre sujet, puisque le bilan de François Hollande, c'est aussi la situation à gauche. Hein, adepte de la synthèse, ses héritiers continuent à l'appliquer avec passion en y rajoutant un petit élément, c'est le chaos. Et oui, une synthèse du chaos avec un parti socialiste qui ne colmate plus les brèches mais tente une évacuation, on ne sait où. La France insoumise qui a lancé une bagarre de rue avec le parti communiste. Et eh bien, le petit Manuel Valls abandonné au milieu de tout ça et que personne ne veut venir chercher. Il y avait Rémi sans famille, voici Manu sans famille. Hein. Depuis le 23 mars et son appel à voter Emmanuel Macron, rien ne va plus. Emmanuel Macron se fiche de son soutien et le parti socialiste se méfie de plus en plus de cet ancien Premier ministre qui divise. Hier, Manuel Valls a expliqué qu'il souhaitait se présenter aux législatives sous l'étiquette La République En Marche. Dans le camp Macron, on lui demande d'adhérer au nouveau mouvement et au PS. Jean-Christophe Cambadélis annonce qu'une procédure d'exclusion du Parti Socialiste est en cours contre Manuel Valls. Mais comment tout ça va finir? Eh bien, pour la ministre de l'Environnement, en fait, ça devient avant tout gênant, Ségolène Royal.
Ce que je regrette, c'est que cette polémique surgisse dans une semaine cruciale pour les institutions. Et c'est trop tôt quand je regarde, voilà, une des journaux ce matin, il y a une forme de dégradation brutale du débat politique avec ces disputes sur les étiquettes. Et je pense que Manuel Valls aurait dû attendre un peu avant de polluer une semaine extrêmement importante qui est regardée dans le monde entier et qui fait la fierté de la France.
Ségolène Royal, ce matin sur RTL, Valérie Debord, là, les mots sont durs quand même de Ségolène Royal, c'est polluer. Manuel Valls, est-ce qu'il pollue actuellement la vie politique française à chercher finalement une investiture?
Je pense que je vais être désagréable, j'en suis navrée.
Non, je t'en prie.
Je crains que Madame Royal aille quand même très au-delà de ce qu'il faut faire pour un plat de lentilles et un poste. Voilà. Enfin, je trouve ça aux confins de l'indécence, très sincèrement.
Pourquoi vous dites que vous, Manuel Valls, on le traite mal?
Non, c'est pas ça. Manuel Valls, on ne peut pas me suspecter d'avoir des affinités pour lui, est un ancien Premier ministre de la France. Néanmoins, il incarne quelque chose. Il y a 5 mois, il était Premier ministre de la France. Ça veut dire quelque chose dans ce pays. Madame Royal, on voit bien qu'elle est dans une posture de recherche, de poste, d'adoubement, de je ne sais quoi. Et jouer comme ça, surjouer comme ça, alors que tout le monde sait très bien ce qui se joue et se trame derrière, et surjouer cette espèce de fausse candeur et de fausse loyauté envers Monsieur Macron, qu'elle aurait rejeté d'un revers de main s'il n'avait pas été là où il est aux confins de l'indécence pour moi.
Vous trouvez, justement, alors Éric Mettou, on a l'impression que tout le monde prend plaisir, finalement, il y a une sorte de supplice chinois autour de Manuel Valls, quoi. Là, c'est bien, aussi bien au PS que chez En Marche.
Là, il prend cher. Hein.
Oui, c'est le cas de le dire. Mais c'est vrai que c'est...
Il prend cher. Non, mais on a l'impression qu'il a raté tous ses paris. Hein. C'est-à-dire non seulement il a raté ses paris, mais en plus, il les a fait à chaque fois à contre-temps. Et celui-ci en dernier. Après, Manuel Valls, c'est une bête politique. Il a survécu à d'autres épreuves que celle-là. Je pense qu'il survivra à celle-là. Combien de temps ça prendra, on verra. Ça sera plus ou moins rapide. Il y a une des hypothèses qui est qu'il va aller se présenter de toute façon, quoi qu'il arrive, dans l'Essonne, là où il est chez lui, où il a quand même, je crois qu'il a fait 65% aux dernières législatives, qui peut passer tout seul. Et s'il passe tout seul, il survivra plus vite que s'il passe pas. Ouais. Bon, après, c'est vrai qu'il y aura de l'adversité. Il va avoir les socialistes qui vraiment n'en veulent plus, ça c'est clair. Ségolène Royal compris, je pense.
Et En Marche.
En Marche, n'en veut pas non plus. Ça serait vraiment le pire signal qu'il pourrait envoyer de lui tendre la main aujourd'hui, en tout cas. Les Républicains qui vont se faire un plaisir. Donc ça va être difficile. Mais s'il s'en sort tout de suite dans l'Essonne, il peut rebondir rapidement.
Vous pensez juste une chose, c'est quoi aujourd'hui, il paye quoi ? Son attitude à Matignon ? Vous pensez que c'est ça, finalement ?
Il paye d'être exactement sur le même terrain que le président de la République. Enfin, le problème, c'est qu'il y en a un qui a joué et qui a gagné, et puis l'autre qui a joué exactement la même carte, pas tout à fait de la même manière, mais la même carte et qui a perdu.
Alexis Massard, pour vous, aujourd'hui, ce qui se passe avec Manuel Valls, ça paraît étonnant. C'est vrai qu'il y a un moment, on voyait cet homme, finalement, se présenter à la présidentielle. Il a perdu, en effet, aux primaires. Il n'a pas soutenu son candidat Benoît Hamon. Et depuis qu'il soutient Emmanuel Macron, c'est de pire en pire pour lui, quoi. Il n'y a jamais un soutien. Il n'y a même pas une main tendue de la part d'Emmanuel Macron. Il n'y a rien du tout. Là, on voit que...
Je reprendrai le terme qui vient d'être utilisé, c'est à contre-temps. J'avoue qu'honnêtement, moi, la stratégie de Manuel Valls, là, tout de suite, je la trouve pas lisible. Elle est pas en phase avec le rythme institutionnel qui est le nôtre. Et on sort tout juste d'un deuxième tour. On connaît les postures des uns et des autres. Immédiatement, il y a une intervention de Manuel Valls, qui, dans la forme, était, autant, on parle peut-être pas à un ancien premier ministre, comme ça a été fait aujourd'hui, en disant « tu n'as pas ta carte, tu viens pas », autant on ne s'adresse pas aussi rapidement et aussi radicalement à un président élu. Alors que toute la stratégie...
Là, il l'a fait en force, il faut dire.
Il l'a fait en force. Mmh. Le problème en soi est ingérable de toute manière, puisque si Manuel Valls est accepté, l'opposition va se faire un plaisir de mettre en avant le lien entre les deux. S'il n'est pas accepté, on crie au scandale, puisqu'on on ne parle pas à un Premier ministre de ce type. Le problème était complètement ingérable. Du coup, En Marche revient sur les principes qu'ils avaient établis, et ça amène Manuel Valls à être mis sur le côté. Mais c'est lui aussi, je suis désolé.
C'est son attitude.
C'est à contre-temps. Quoi.
On va continuer à parler de Manuel Valls et du Parti Socialiste dans un instant. L'info à 20h20, Stéphane Milhomme.
Le dernier Conseil des ministres, c'était ce matin. La démission du gouvernement Cazeneuve, c'est officiel depuis 20h. François Hollande demande à ses ministres de gérer les affaires courantes. La passation de pouvoir se déroulera dimanche à 10h. Aujourd'hui, les deux présidents, Hollande et Macron, ont commémoré côte à côte l'abolition de l'esclavage à Paris. Les législatives après la présidentielle et la situation reste compliquée à gauche. Benoît Hamon crée son mouvement transpartisan pour reconstruire la gauche, dit-il. Christiane Taubira, Martine Aubry et Anne Hidalgo lance un mouvement baptisé « Dès demain » pour une démocratie européenne, écologique et sociale. Un violent incendie dans le centre de tri des déchets près de Rodez, dans l'Aveyron, à Bouzouls. Les causes ne sont pas encore connues. Plus d'une cinquantaine de pompiers à pied d'œuvre aujourd'hui sur ce bâtiment de près de 5000 m². Aux États-Unis, Donald Trump évoque une très bonne rencontre avec Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères. Mais cette visite intervient dans un climat politique tendu à Washington, après la décision surprise de Donald Trump hier soir de limoger James Comey, le patron du FBI. Pour le mondial de rugby en 2019, l'équipe de France se retrouve dans la poule de la mort. Le tirage au sort s'est déroulé ce matin. Les Bleus ont échappé aux All Blacks, mais ils devront entre autres faire face à l'Angleterre et l'Argentine et la meilleure équipe des qualifications de la zone Amérique.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
C'est vrai que ça va être une poule très difficile, Eric Metou. Voilà, pire que le Parti Socialiste, en fait. Hein, ça va être très compliqué, en tout cas, pour la France. Juste une chose, alors, on va en parler justement du Parti Socialiste. On l'a entendu dans le rappel des titres de Rigoutard. On voit des mouvements, en ce moment, se créer. Ce matin, Benoît Hamon a annoncé qu'il créerait le sien au mois de juillet. Là, il y a donc Anne Hidalgo, maire de Paris, la maire de Lille, Martine Aubry et Christiane Taubira qui ont lancé un mouvement intitulé Dès demain. C'est quoi, en fait, qui s'organise ? C'est le congrès, en fait, c'est là.
C'est le congrès, c'est le prochain congrès. Et puis, c'est le fait qu'il n'y ait pas un chef suffisant. suffisamment puissant pour tenir tout le monde et pour gérer effectivement tous ces mouvements. Donc voilà, après tout, du coup effectivement chacun part avec son mouvement, s'organise, voilà, c'est la démonstration effectivement d'une angoisse d'un parti qui est en décrépitude en ce moment en tout cas, et d'un congrès qui arrive bientôt.
Alexis Massard, pour vous justement, c'est quoi en fait ce qui se passe plutôt au PS en ce moment? C'est une crise façon comme on a connu en Grèce avec le PASOK qui a presque disparu, ou alors finalement c'est une nouvelle page qui se tourne, un nouveau PS qui va
Un peu plus de 6%, on est quand même plus proche du PASOK qu'un congrès du PS qui se passe mal, comme on en a connu plusieurs, hein. Soyons très clairs. Là, on sent bien que tout le monde a intégré la Bérézina qui va arriver au mois de juin autour des élections législatives. Et effectivement, comme vous le disiez, ils sont en train d'essayer de s'organiser pour préparer le congrès, essayer de survivre, garder des réseaux. Je crois qu'il y a quand même quelques pièces majeures, quelques villes importantes, soit Paris, Lille, si je reprends... Les noms que vous aviez cités, qu'il va falloir essayer de conserver lors des prochaines échéances. Donc, tout le monde se resserre aussi un peu sur son territoire, recrée quelques solidarités, et puis attend peut-être que ça passe, et puis voir un peu ce qui pourrait être fait derrière.
Allez, il y a une autre actualité en ce moment aussi à gauche, c'est bien sûr Jean-Luc Mélenchon, puisqu'en 2012, François Hollande mettait à terre Jean-Luc Mélenchon, qui n'enregistrait que 11,11%, et aujourd'hui, ce dernier représente la première force de gauche du pays, avec plus de 19% à la présidentielle. La France Insoumise présentera 577 candidats législative, dont l'imitateur Gérald Dahan. Bon, voilà, c'est assez étonnant. Et Brégras, donc Jean-Luc Mélenchon, une circonscription à Marseille. Il s'est expliqué sur ce combat ce matin au micro de Jean-Jacques Bourdin.
Quand je vois les sondages, on me met entre 13 et 16, et on met Monsieur Macron entre 20 et 24. Bon, c'est rien, ça. C'est 6 points, ça se rattrape. Nous pourrions donc avoir une majorité législative. Je me bats pour ça. Pas pour faire du témoignage et me partager le financement public. Ragnagna, je dis aux gens, ne donnez pas les pleins pouvoirs à Monsieur Macron.
Voilà, Jean-Luc Mélenchon ce matin sur BFM TV. Justement, Valérie Debord. Il va aller dans une circonscription particulière à Marseille. C'est la 4e circonscription de Marseille face à Patrick Mennucci. Patrick Mennucci est très en colère ce soir parce que il l'a dit sur un post Facebook, la droite et le Front National ne peuvent pas gagner normalement cette circonscription. Donc, c'est pour m'abattre. Voilà, il y va clairement. Est-ce qu'on est là-dedans vraiment dans une guerre des gauches de nouveau? Jean-Luc Mélenchon continue?
Déjà une chose sur M. Mélenchon, il a quand même commis une vraie faute morale en n'étant pas clair sur le deuxième tour.
Vous dites en n'appelant pas à voter Emmanuel Macron?
Oui. Très, très sincèrement, je crois qu'en la matière, il s'est décrédibilisé à titre personnel. Et c'est très compliqué aujourd'hui par rapport à ça. Deuxièmement, il nous avait déjà fait le coup, il était allé à Hénin-Beaumont, vous savez, pour défier
Marine Le Pen.
C'était Marine Le Pen. Oui. Là, il baisse quand même dans ses objectifs de combat.
Vous avez parfaitement raison. Mais en même temps, enfin, il a un côté comme ça, on a un peu l'impression d'un artiste qui se jette sur scène. Et alors, ça peut avoir un côté agréable, certainement pour un certain nombre de personnes, mais c'est un peu sérieux ce qui joue en ce moment. Ce qui joue en ce moment, c'est le destin de la France dans l'Europe. C'est une certaine façon aussi de regarder comment notre pays se positionne.
Mais il a fait un score quand même qui est conséquent.
Oui,
quand même,
mais on ne joue pas. On ne joue pas. Je trouve qu'il joue beaucoup. Il a joué beaucoup avec ce qui se passe en Amérique du Sud, avec ce qu'il voulait faire comme alliance. Il joue quand même avec le Front National. Ça ne se fait pas. Et là, maintenant, il joue à « je vais aller à Marseille ». Est-ce que c'est très sérieux? Est-ce que c'est très sérieux? Est-ce que les 18% de gens qui ont cru en lui, qui ont voté en lui, se retrouvent dans ce jeu? Je ne suis pas certaine. La politique, c'est pas un jeu. La politique, c'est sérieux. Et la politique, c'est pas effectivement aller se confronter un petit peu, vous savez, dans une espèce de virilité du passé, comme ça, sur des théâtres d'opérations. Et alors, là, j'ai un peu cette impression.
Éric Métou, là, on voit Jean-Luc Mélenchon qui choisit exprès un nom à Marseille, Patrick Mennucci, donc vraiment, en plus, un nom socialiste, qui dirige véritablement, qui tient les rênes socialistes, qui est l'adversaire habituel de Jean-Claude Gaudin. Là, il y va vraiment, il a choisi sa cible.
Si je faisais de la psychologie politique de cuisine, je dirais que Mélenchon, il veut tuer le PS. Ça fait longtemps qu'on le sait, enfin, depuis qu'il est parti, grosso modo. Là, il va l'achever, quoi. S'il l'a bêté à terre, et poum, il va lui tirer dans la tête. Après, c'est sa carte personnelle. C'est là, je suis assez d'accord avec vous. C'est-à-dire que ça manque un petit peu d'ampleur derrière sur qu'est-ce qu'il va faire. Alors, le problème de Mélenchon, c'est qu'il joue. Il joue un jeu politique, tous les hommes et toutes les femmes politiques jouent un jeu politique, mais il joue avec ses armes. Et des armes, les seules armes qu'il a, mais qui sont conséquentes, c'est les 19%, 18 ou 19% qu'il a fait à la présidentielle. Mais derrière, on a envie de dire, Mélenchon, c'est combien de divisions? Et avec qui va aller au front aujourd'hui. Et il va au front avec la seule chose dont il est vraiment certain, c'est sa gueule, c'est sa force de tribun, c'est sa force de conviction. Et il va à Marseille pour emporter le morceau et pour espérer que derrière ça suivra.
Ça pousse, ouais.
Je suis pas du tout sûr que ça suivra.
Il a fait un bon score, ça c'est vrai, à Marseille, mais il prend un risque aussi en arrivant sur un terrain comme ça qui est tellement organisé, où chacun effectivement joue sa partition habituellement, de se retrouver avec tout le monde contre lui. C'est-à-dire que tous peuvent se retourner effectivement contre ce guerrier là qui débarque comme ça, et c'est effectivement un pari finalement assez risqué, je trouve.
Voilà, on va parler dans un instant de ce qui se passe également au Front National. Décidément, on se demande où il ne se passe rien en fait, hein, dans la vie politique française. Attendez, oui, non mais, et justement des Républicains, voilà, où il se passe aussi des choses à l'air de bord, je vous assure. La suite des Informés de France Info, c'est dans quelques minutes.
Monsieur Store présente Histoire de maison.
T'as remarqué? J'ai quelque chose qui a changé.
Tu t'es fait refaire la façade?
Presque! Je me suis fait poser de nouvelles fenêtres. Et attends de voir ma pergola.
Oh, mais où est-ce que je peux trouver tout ça?
Chez Monsieur Store. En ce moment, c'est la fête de la maison. Pergola, fenêtres, volets, fermetures, maisons connectées et sécurisées. Monsieur Store te fait profiter d'offres exceptionnelles.
Monsieur Store. 1000 façons d'aimer sa maison.
Vous avez un projet? Appelez vite votre magasin Monsieur Store ou rendez-vous sur monsieurstore.com. Voir conditions détaillées en magasin.
France 2. Ce soir, 10% saison 2, ils reviennent et ils sont à 100%.
Moi je pars à Cannes demain là. J'ai un milliard de trucs à régler, ok? Je suis en pleine montée de croisette.
Avec Guy Marchand et Juliette Binoche, les derniers épisodes inédits. 10% ce soir à 20h55 sur France 2.
Sublime.
France Info Météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, torréfié à l'ancienne, pour préserver le goût unique de nos cafés. À retrouver sur malongo.com.
Et à Météo France, on retrouve Elodie Calac.
Un temps perturbé demain, des plus orageuses le matin du sud de la Bretagne vers la Vendée, Poitou-Charentes, les Pyrénées. Ce sera le cas aussi vers le Languedoc-Roussillon et l'Ardèche. Il y aura encore du vent fort sur le quart sud-est. Ailleurs, pas mal de nuages, quelques averses même de la Normandie au centre. Plus de soleil quand même en allant vers le nord de la Seine, la région parisienne, l'Alsace. L'après-midi, on retrouvera nos pluies orageuses du nord-ouest vers le centre, le Jura, la Méditerranée. Plus soutenues vers le Massif central et Rhône-Alpes. Plus au nord, là, on aura encore quelques éclaircies, un risque d'averse et d'orage. Même chose entre les Pyrénées et le Limousin. La côte aquitaine s'en sortira mieux avec le retour du soleil. Il fera doux demain matin, 8 à 13 degrés au nord, 10 à 15 au sud. L'après-midi, comptez 17 degrés à Brest, à Lyon, 18 à Tours et Dijon, 21 à Lille, à Marseille, 22 degrés à Nancy, Paris, Bordeaux ou Toulouse. Et on ira jusqu'à 25 degrés à Ajaccio.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Édouard Marguier, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. C'est la suite logique. Après l'élection d'Emmanuel Macron, le Premier ministre Bernard Cazeneuve a remis sa démission et celle de son gouvernement ce soir. Comme le veut la tradition républicaine, François Hollande lui demande d'expédier les affaires courantes jusqu'à la formation d'un nouveau gouvernement. Ce sera après la passation de pouvoir dimanche à 10h. Le nouveau président de la République et l'ancien se sont retrouvés aujourd'hui, deux jours après le 8 mai. François Hollande et Emmanuel Macron ont commémoré ensemble la journée de l'abolition de l'esclavage dans le jardin du Luxembourg à Paris. Reportage Mathieu Mondoloni.
Une dernière photo en musique avant dimanche, une cérémonie en forme de passation de relais entre François Hollande et Emmanuel Macron. Le président de la République a d'ailleurs eu ses premiers mots au pupitre pour le président élu.
Cher Emmanuel Macron, je suis heureux de votre présence ici pour cette cérémonie. Vous avez voulu y participer comme pour montrer la volonté de poursuivre le devoir de mémoire.
Comment ne pas y voir une allusion à celui qu'il considère comme son fils spirituel, son héritier, François Hollande, qui a prononcé l'un de ses derniers discours publics en tant que président devant de nombreux membres de son gouvernement et qui n'a pas manqué de ce trait qui le caractérise, l'humour, le tout pour une fois sous un grand soleil.
Je suis fier que pour une des dernières cérémonies, sans doute la dernière, avant que je ne remette la totalité de mes pouvoirs, n'ayez aucune crainte, je n'en garderai aucun d'autre. À Emmanuel Macron, président élu.
Le président du passé face à celui du futur, une nouvelle poignée de main et les deux hommes se séparent. François Hollande s'éloigne presque discrètement, un vrai contraste avec le futur président, juste derrière lui, qui s'est offert un très long bain de foule sous les vivats.
Mathieu Mondoloni du service politique de France Info. Après la présidentielle et législative, Jean-Luc Mélenchon compte se présenter dans la 4e circonscription de Marseille, ville dans laquelle il était arrivé en tête du premier tour et avait fait 39% dans cette circonscription. Le candidat de la France Insoumise confirmera cette décision demain à Marseille après avoir rencontré des militants. Le député en place, le socialiste Patrick Mennucci, dénonce de la vieille politique et un parachutage. Non, un procureur spécial n'est pas nécessaire, dit la Maison-Blanche aux États-Unis ce soir pour répondre à ce qu'ont demandé les démocrates après la tempête déclenchée par le limogeage du patron du FBI. James Comey était chargé de l'enquête sur le rôle de la Russie pendant la présidentielle américaine, soupçon de piratage. Donald Trump l'a limogé parce qu'il faisait du mauvais travail. Lula, l'ancien président du Brésil, est en ce moment devant un juge anticorruption, audience depuis 1h30 à Curitiba, dans le sud du pays. Des milliers de partisans sont venus le soutenir. L'icône de la gauche latino-américaine est visée par plusieurs enquêtes de corruption, trucage de marché public et échange de pots de vin. 20h33 sur France Info, la suite des informés avec vous, Jean-Mathieu Pernin.
20h-21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, ils s'épanouissent au soleil de l'actualité. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent le politologue Alexis Massard, la vice-présidente de la région Grand Est et porte-parole des Républicains Valérie Debord, Éric Métou de L'Express et Audrey Goutard de la rédaction de France Télévisions. La vie politique ressemble à une attraction de fête foraine, peut-être que vous connaissez, baptisée le Tagada. Ça secoue tellement qu'il est impossible de se tenir debout, même à droite, de la droite, de la droite, de la droite, ça bouge. Marine Le Pen pensait reporter assez loin, en fait, les raisons de son échec au second tour, un échec qui a tout de même rassemblé 11 millions de voix. Elle pensait juste hausser les épaules, dire c'est pas grave et retourner danser sur YMCA quand est arrivée la nouvelle secousse nommée Marion Maréchal Le Pen, qui renonce donc pour l'instant à la vie politique. Elle ne briguera pas un second mandat de députée et donc et met de côté son siège au conseil régional de PACA. Des raisons personnelles l'ont poussée à prendre cette décision que son grand-père, toujours dans la délicatesse militaire, qualifie de désertion, mais pas d'inquiétude pour le parti, selon le député apparenté FN, Gilbert Collard.
Faites-en votre deuil, le FN ne se fissure pas. Moi, j'ai vu Marion hier, on a longuement parlé, elle est complètement de cœur, d'idées, d'action dans le mouvement. Je peux la comprendre, je peux comprendre qu'à 29 ans, on ait envie d'avoir une autre existence, de respirer peut-être aussi un autre air. De la politique n'est pas toujours très bon pour les poumons, surtout les jeunes poumons.
Ah, c'était Gilbert Collard, interviewé cet après-midi par Hercine Lebovitch. Alors justement, ça paraît assez étonnant quand même quand on voit ça, Alexis Massard, parce que est-ce que c'est un coup véritablement pour le FN quand on connaît au sein du mouvement la popularité de Marion Maréchal Le Pen?
Ça va être un vrai problème. Alors, je parle même pas des fêtes de famille chez les Le Pen, puisque
ça, on en parle même plus,
commencer
à
devenir compliqué. Voilà. Mais pour le Front National, si, c'est quand même un mauvais coup, puisque on avait, avec Marion Maréchal Le Pen, on a toujours quelqu'un de véritablement brillant. On l'a senti assez vite dans ses capacités oratoires, dans son investissement, dans son travail. Et elle incarnait aussi une voix particulière au sein du FN.
On disait que c'était l'héritière de son grand-père, en fait. On disait que c'était la suite de Jean-Marie Le Pen.
Pas tant que ça. Il y a des éléments de connexion, mais elle était en train, plutôt, me semble-t-il, de forger sa propre identité. Et là, son agenda personnel et politique, très clairement. Elle sort du jeu officiel du FN au moment où il va quand même y avoir quelques règlements de compte par rapport aux lignes politiques qui ont été élaborées. Elle va les laisser se débrouiller. Elle reviendra avec un discours en disant « Voilà, moi je suis une politique qui est aussi travaillée. J'ai pas passé ma vie dans un parti. Je suis pas une permanente. J'ai une vraie vie à côté. » Donc elle additionne les petits éléments qui, le jour venu, et très certainement à la prochaine présidentielle, non pas forcément en candidate, mais laisser passer les résultats de ce qui va se passer au FN, là on reverra une Marion Maréchal Le Pen revenir.
Alors Audrey Goutard, justement, on sait qu'elle incarne une branche plus identitaire, Marion Maréchal Le Pen, qu'elle sait affronter à Florian Philippot, souvent au sein des discussions, notamment sur l'Europe, le souverainisme. Est-ce que ça veut dire que c'est lui qui a gagné, quand même, malgré tout, avec ce départ de Marion Maréchal Le Pen?
Ah non, moi je trouve qu'elle a complètement, elle a très bien joué, c'est elle qui gagne. C'est pas du tout lui. Elle gagne parce que elle gagne vis-à-vis de son électorat en se faisant passer pour une bonne mère qui va s'occuper de son enfant plutôt que de se mêler à des choses horribles, la politique, Burke, etc. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Elle joue sa carte. Elle va les laisser s'entre-déchirer. Philippot n'a pas besoin d'elle pour avoir de gros problèmes au sein du FN. Mmh. Et elle reviendra comme une fleur en expliquant qu'effectivement, voilà ce que vous disiez très bien, en expliquant que bon, elle est au-dessus de tout ça et que c'est elle la vraie représentante de la nouvelle droite, extrême droite en tout cas.
Voilà, Éric Métou, quand Gilbert Collard, on l'a entendu, dit non mais attendez, il n'y a aucune faille dans le parti, tout le monde est derrière Marine Le Pen. On les a vues, ces failles, elles sont présentes, notamment entre Marie-Maréchal Le Pen et Florent Philippot.
Gilbert Collard, c'est l'avocat.
Exactement.
Ah, c'est ça. Non, tout va bien au Front National. C'est formidable. Ils ont fait 7 mois de moins que prévu. Il y a une vraie déchirure entre les identitaires d'un côté, les populistes, on va dire, mélanchonistes de l'autre.
Voilà, c'est ça.
Donc, on me fait engueuler sur les réseaux sociaux. Il y a une fracture entre le Nord-Est et puis le Sud-Est. Enfin, voilà, il y a deux partis, il y a deux Front National maintenant, comme il y a deux Les Républicains,
on va parler dans un instant,
tout à l'heure. Voilà, et effectivement, elle sort du jeu. Alors après, c'est quand même un pari. Hein. D'abord, on n'est pas sûr qu'elle revienne, parce que ça se trouve, elle va gagner plein d'argent à l'extérieur, et puis elle va être très contente d'élever ses enfants. On ne sait pas, peut-être que c'est sincère. Et puis, c'est pas facile de revenir comme ça après être sorti. On ne sait pas ce que sera le Front National dans 5 ans. C'est aussi un pari sur l'avenir du parti qui va probablement quand même imploser, en tout cas se restructurer.
Ce qui marque aussi dans l'histoire, c'est quand même un Le Pen qui s'en va du FN. Vous voyez, c'est ça, je pense, qui a marqué les gens, c'est le nom.
Oui, alors c'est ce qui était drôle, j'entendais, je sais plus si c'était Ménard tout à l'heure qui disait Marion Maréchal.
Oui.
Il n'y a plus Le Pen. C'est-à-dire que Marine, par exemple, pendant la campagne, elle a disparu derrière son prénom. Son nom a disparu derrière son prénom. Jean-Marie Le Pen, on sait que c'est un héritage lourd à porter. Et on commence à l'appeler Marion Maréchal. Donc, est-ce qu'elle va revenir Maréchal, nous voilà? Je ne sais pas.
Alors, Valérie Debord, on l'a entendu le soir du second tour. Marine Le Pen a appelé à la création, pour eux, d'un nouveau parti assez élargi. On a pu voir une alliance là, entre le Front National, Nicolas Dupont-Aignan. Est-ce que finalement, ce parti élargi, est-ce que vous, ça pourrait vous inquiéter? C'est-à-dire que ça pourrait rogner sur un électorat qui pourrait vous trouver justement trop tenté pour certains par peut-être Emmanuel Macron ou des choses comme ça.
La première chose, c'est que le FN, moi dans ma région, je le vois à l'œuvre.
Donc le Grand Est.
Le Grand Est, excusez-moi. La haine au quotidien, je la vois à l'œuvre. L'exclusion, les blagues douteuses, les remarques sexistes, ce petit côté un petit peu enchelousse qu'ils ont au quotidien, c'est une réalité, enfin, c'est pas un fantasme. La haine intrinsèque entre eux, c'est une réalité aussi. Dans leur groupe d'une quarantaine de personnes au Conseil régional du Grand Est, il y a déjà au moins 3 ou 4 groupes. Ils s'interdisent de parler entre eux. Monsieur Philippot dit qu'il doit parler. Enfin, c'est une espèce de truc assez étonnant.
Et ce nouveau parti, est-ce que ça vous inquiète finalement, alors, ou est-ce que ça vous oblige à aller finalement
de façon
plus à droite?
Très clair. Le Front National, jamais. Il y a eu 2 malheureuses personnes chez nous qui ont eu des consignes de vote en ce sens, évidemment immédiatement exclues de chez nous, pour des raisons évidemment morales et éthiques. Et parce que, en plus, Mme Le Pen a fait l'éclat de son incompétence et de l'inanité de son programme. Ces gens portent des valeurs qui sont évidemment contraires aux nôtres, mais en plus, leur projet est complètement suicidaire pour la France. Elle n'a même pas été capable d'ailleurs de le présenter. Ce qui fait qu'elle a fait ce score qui n'est évidemment pas celui qu'il souhaitait. Néanmoins, c'est quand même 11 millions de personnes.
Oui. En France. Alors justement, on va y revenir là-dessus dans un instant. L'info à 20h40, Stéphane Milhomme.
Et c'est la suite logique de l'élection d'Emmanuel Macron. Le gouvernement démissionne ce soir après le dernier Conseil des ministres ce matin à l'Élysée. François Hollande charge Bernard Cazeneuve et ses ministres d'expédier les affaires courantes. Passation de pouvoir dimanche à 10h entre les deux présidents. Emmanuel Macron est officiellement élu président de la République. Le Conseil constitutionnel publie les résultats. Il obtient bien 66,1% grâce à plus de 20 700 000 électeurs, 33,9% pour Marine Le Pen. Résultat annulé en revanche dans 38 bureaux de vote, mais cela ne représente que 0,05% des suffrages exprimés. Jean-Luc Mélenchon compte se présenter aux législatives à Marseille dans la 4e circonscription. Il viendra officialiser sa candidature demain sur place. La colère du député socialiste sortant, Patrick Mellucci, il craint que le second tour se résume à un combat gauche contre gauche. Chez les Républicains, les élus tentent de garder leur unité, mais certains envisagent de collaborer avec le président élu. Gilles Boyer, candidat candidat Les Républicains dans les Hauts-de-Seine et proche d'Alain Juppé, estime que si Emmanuel Macron nomme un Premier ministre de droite, il faudra en tenir compte. Pas content du tout, le président Erdogan, le président turc appelle les États-Unis à revenir sans délai sur l'armement des Kurdes syriens. La Turquie considère ces milices kurdes comme des formations terroristes, un moyen de lutter contre Daesh pour les États-Unis. La deuxième demi-finale de la Ligue des Champions avec le match retour entre les footballeurs de l'Atlético et le Real Madrid dès 20h45. Le Real a remporté le match aller 3-0.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons de Marion Maréchal Le Pen qui a donc quitté donc la vie politique. Elle ne se représentera pas pour l'instant à son siège de député ni à son siège conseil régional. Juste une chose, Valérie Debord, vous parliez justement de ces 11 millions de voix du Front National de Marine Le Pen au second tour. Il y a beaucoup de gens aussi qui peut-être avant votaient soit RPR, UMP ou Républicains qui ont voté Marine Le Pen. Est-ce que ça finalement, ça, j'imagine que depuis le temps vous y réfléchissez, est-ce que ça ne vous met pas dans une confusion totale? Parce qu'aujourd'hui on se dit que l'opposition aujourd'hui par exemple, à Emmanuel Macron à droite, c'est Marine Le Pen.
Quand vous regardez qui a voté majoritairement pour Marine Le Pen, ce sont les ouvriers. C'est quand même quelque chose à vraiment regarder, quoi. C'est les statistiques qui ont été faites. Aujourd'hui, le score de Monsieur Mélenchon, additionné à ceux de Madame Le Pen, c'est vrai que ça pose quand même une vraie problématique. On n'a pas, et ça c'est à notre détriment, dans la campagne de François Fillon, suffisamment parlé aux ouvriers, suffisamment parlé aux classes moyennes. La droite, c'est le parti qui doit être en capacité de parler aux ouvriers et aux patrons.
C'est pour ça que vous êtes revenu aujourd'hui sur son programme, vous avez rayé finalement les mesures les plus libérales.
Déjà, comme toute partie qui se respecte, à partir du moment où on n'a pas été qualifié, il faut en tirer les conséquences et les conclusions, c'est tout à fait normal, ça serait irrespectueux et parfaitement malhabile. Et il nous a semblé que tant sur les jeunes, que tant effectivement sur les classes moyennes, il n'y avait pas eu de réponse qui permettait une adhésion. Donc nous avons souhaité revenir par rapport à ça. On ne peut pas dire que M. Hollande a entre guillemets, spolier de 50 milliards de fiscalité les Français et repartir à zéro comme si de rien n'était. Donc je pense qu'il y a de ce point de vue de la cohérence à avoir par rapport à un discours. Et encore une fois, parler à tout le monde, ça a toujours été la droite et ça doit être toujours la droite.
Juste une chose encore, on va en parler, la droite. Vous aviez dit tout à l'heure, pourquoi ne pas soutenir Emmanuel Macron sur la loi travail? On sait que...
Sur une base programmatique.
Bien sûr,
je sais qu'il y a beaucoup de choses.
Il y a beaucoup d'astérix. Voilà. Et sur une loi sur la moralisation de la vie politique.
Oui, d'abord aussi. Évidemment. Enfin, je veux dire, soyons très clairs, tout ce qui permettra aux Français d'avoir confiance dans leur classe politique, qui leur permettra de considérer qu'ils peuvent avancer avec leur classe politique, sera de nature positive. Pas du gadget, pas des choses pour faire semblant. Des vraies choses qui permettront d'avancer de façon positive.
Parce que comme la morale a été importante quand même dans cette campagne.
Mais c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Donc tout ce qui le permettra sera regardé positivement.
Alors, juste avant qu'on parle de la droite, j'ai une petite question pour vous, justement, Alexis Massard, à propos de... On voit Marion Maréchal Le Pen quitter la vie politique, et on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui la quittent, la vie politique, cette année. On a vu, par exemple, même des gens plutôt jeunes, Luc Chatel, voilà, qui ne se représentera pas. Certains sont sous le cumul du mandat, ils ne pourront pas, comme Benoît Apparu, être maire, par exemple, et député. Et on voit des gens comme ça, de droite comme de gauche, hein, d'ailleurs, quitter la vie politique. Il y a Jean-François Mancel, par exemple, qui est député républicain, qui a cette phrase qui a dit: j'avais le droit de continuer, mais j'ai le devoir d'arrêter. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience chez certains hommes et femmes politiques, qu'à un moment, la vie politique, ça, c'est pas toute la vie non plus?
Je pense qu'il y a une prise de conscience, et là, c'est vraiment transpartisan. D'un système politique ancien qui est en train de s'effondrer, un niveau de rejet, ça se traduit par les votes extrêmes des deux bords, un niveau de rejet énorme au sein de la population. Je crois que certains prennent ça en considération véritablement et ils voient qu'il y a une attente de comportement nouveau. Et ils ont peut-être aussi, eux, une certaine fatigue par rapport à une présence depuis un certain nombre d'années dans cette vie politique et souhaitent tourner la page. C'est pas le cas de Marion Maréchal Le Pen, j'y reviens.
Oui, bien sûr. Audrey Goutard, quand vous voyez finalement ce personnel politique, il y a un moment aussi, certains disent,
C'est des générations aussi, c'est un peu le syndrome du prince Charles, c'est-à-dire que aussi...
C'est un nouveau syndrome, je le note, celui-là, très bien, Audrey Goutard.
Quel âge il a, le prince Charles? 96 ans.
C'est le fait de louper le coche, quoi. C'est-à-dire que, effectivement, l'arrivée d'un homme aussi jeune qu'Emmanuel Macron fait qu'effectivement, ça saute une génération. Mais c'est pareil pour Valls, c'est pareil pour Luc Chatel, c'est pareil. Alors, ils reviendront peut-être.
Mais bien sûr.
Je pense que tout à coup, effectivement, il y a une prise de conscience chez eux et ça doit être un peu désespérant de voir qu'ils ont clairement loupé le coche.
Voilà, il a même réussi, Emmanuel Macron, à faire vieillir François Baroin. On ne pensait pas qu'un jour il vieillirait François Baroin. Alors, depuis son élection, c'est à peu près tout sur Emmanuel Macron. On connaît sa femme, Brigitte, bien sûr, ses costumes, sa passion pour le chocolat que sa femme ne veut pas qu'il mange. On a eu droit à l'interview de son professeur d'histoire géo et on sait même qu'il a un chien. Oui, c'est un dog argentin prénommé Figaro. Alors, on ne sait pas trop si on doit retirer quelque chose. Bref, on connaît tout de Macron, sauf le nom de son premier ministre. Pendant la campagne, nombreux se sont proposés, mais aucun n'a eu l'onction macroniste. On devrait donc avoir la réponse lundi, mais certains parlent d'un premier ministre issu des rangs de la droite. Et pourquoi pas Édouard Philippe? Alors oui, ce nom a l'effet d'une déflagration terrible chez vous, mais juste si ça vous échappe. Voilà, Édouard Philippe, c'est l'actuel député-maire du Havre, Les Républicains. Il est proche d'Alain Juppé. Et ça tombe bien, puisque un souhaite voir l'édile du Havre pousser les portes de Matignon. Et bien, c'est le bas droit d'Alain Juppé, Gilles Boyer.
En tant qu'homme de droite, j'aurais du mal à me dire que la nomination d'un Premier ministre appartenant à la droite et au centre est une mauvaise nouvelle. Si j'étais le président de la République, je nommerais Édouard Philippe Premier ministre.
Oui. Ah oui, il a les épaules, il a l'expérience.
Ah oui.
Voilà, alors donc Gilles Boyer, donc ce nom d'Édouard Philippe, Éric Métou, vous pensez que c'est de l'ordre du possible aujourd'hui, Emmanuel Macron?
J'arrive pas à penser qu'avant les législatives, il nomme Premier ministre un homme politique aussi marqué par son histoire, par son appartenance à un parti. Je pense qu'il va essayer de chercher quelqu'un de ce qu'on appelle la société civile.
Alors,
qui veut rien
dire. Mais en même temps, il a toujours dit, Emmanuel Macron, je veux quelqu'un qui a une expérience législative. Vous voyez, c'est ça en fait qui perturbe un peu tout le monde.
Il va falloir qu'il trouve quelqu'un qui a une expérience législative et qui l'a plus, et qui est plus en poste, et qui n'est pas aussi marqué juppéiste, par exemple, que Édouard Philippe. Et puis par ailleurs, est-ce qu'il peut pas aller chercher aussi chez ses alliés du MoDem, de l'expérience législative, il y en a, et ça serait quand même un peu plus cohérent par rapport à la campagne et aux alliances qu'il a nouées pendant la campagne.
Valérie Debord, vous, ça c'est une question dont vous avez, j'imagine, abordé, que vous avez abordé lors du bureau politique là des Républicains.
Oui, on l'a abordé. Je vous donnerai un exemple pour illustrer. Si vous regardez ce qui est dit, notamment par l'entourage, alors c'est toujours compliqué de faire parler les entourages, en tout cas, du président de la République. Le nom de Xavier Bertrand revient très très fréquemment. Et Xavier Bertrand a lui-même dit que tout ça n'était qu'un écran de fumée, qu'il n'a jamais été dans cet état d'esprit, qu'il ne le souhaite pas. Et donc on voit bien aussi, je pense que le nouveau président de la République est un vrai joueur d'échecs. Il avance ses pions et il a certainement son objectif, sa stratégie, ça lui appartient. S'il veut vraiment recomposer, il ne nomme pas son Premier ministre après avoir investi 577 candidats de son parti politique. S'il veut vraiment faire en sorte que les choses soient différentes, eh bien, il pose les choses dans une coalition à l'allemande et il propose une base programmatique en amont,
en aval. Si c'était le cas, ça diviserait votre parti ou pas?
Mais
profondément.
Si c'était le cas, c'est-à-dire
s'il y a une nomination d'un Républicain aujourd'hui à Matignon?
Très sincèrement, non. Pourquoi? Parce que les choses sont très simples. Le président de la République a lui-même dit qu'il ne pouvait pas y avoir de double investiture, qu'on ne pouvait pas être à la fois En Marche et d'un parti politique. Donc, quelqu'un qui le rejoint devient En Marche et donc n'est plus sur un autre parti. Donc, nous, on s'aligne sur la proposition du nouveau président de la République. À partir du moment où quelqu'un va chez lui, c'est un destin personnel, on ne jette pas d'anathème, mais on est en dehors du champ de la famille.
Donc, exclusion, voilà, comme finalement a dit François Baroin.
C'est même pas de l'exclusion, c'est tout simplement quelqu'un qui choisit de lui-même, eh bien, une autre voie. On ne jette pas d'anathème, il choisit une autre voie. Mais cette voie n'est pas celle de notre famille politique.
Allez, l'info à 20h50, Stéphane Milhomme.
Le dernier Conseil des ministres, c'était ce matin. Le gouvernement Cazeneuve a démissionné ce soir. François Hollande demande à ses ministres de gérer les affaires courantes. Passation de pouvoir dimanche à 10h. François Hollande se rendra ensuite au siège du Parti Socialiste comme François Mitterrand en 1995. Manuel Valls est encore loin d'être en marche pour les législatives. L'ancien Premier ministre ne remplit pas à ce jour les conditions d'une investiture. Selon le camp Macron, côté PS, Manuel Valls est déféré devant la commission des conflits. Il risque l'exclusion. Et pour le député de la Gironde, Gilles Savary, Manuel Valls mérite d'être traité autrement. Aux États-Unis, Donald Trump évoque une très bonne rencontre cet après-midi avec Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères. Mais le président américain appelle la Russie à contenir le régime syrien et l'Iran. L'ancien président Lula, lui, interrogé par un juge anticorruption, une audience sous tension au Brésil. Lula doit être interrogé dans le cadre d'une enquête tentaculaire sur un vaste réseau de corruption. L'issue pourrait empêcher ses ambitions de retour au pouvoir. Interdit de remplir les piscines ou d'arroser les pelouses, les Côtes d'Armor se rajoutent à la liste des départements touchés par la sécheresse en France. Ils sont désormais une dizaine, comme l'Isère et la Haute-Savoie. Et puis la deuxième demi-finale de la Ligue des Champions, avec le match retour entre l'Atlético et le Real Madrid depuis 5 minutes. Pas facile d'envisager une remontada. À l'aller, ce derby espagnol de foot avait été remporté par le Real 3-0.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons des Républicains. On vient de la voir avec Valérie Debord, tout va bien. Voilà, tout est parfait, il n'y a pas aucune tension du tout chez les Républicains. Audrey Guttard, finalement, vous pensez que c'est un beau tableau, voilà, ou que c'est vrai, ça tient pour vous quand vous le regardez de l'extérieur?
Non. Très honnêtement, non, et personne ne le pense vraiment. Alors effectivement, après, on peut enrober, dire que chacun fait ses choix, etc. Mais s'il choisissait un ministre des Républicains, un premier ministre chez les Républicains, effectivement, ça crée une vraie crise. Mais en fait, je pense qu'il faut s'interroger sur, si on se met dans la tête d'Emmanuel Macron, à qui veut-il s'adresser? Est-ce qu'il est dans la réflexion, dans le jeu politique? Ou est-ce qu'il s'adresse aux Français? S'il s'adresse vraiment aux Français, s'il veut vraiment envoyer un message aux Français en vue des législatives en choisissant son Premier ministre, les Français adorent les périodes de cohabitation. Mmh. Ils adorent quand effectivement les politiques de bords différents arrivent à s'entendre, etc. Donc s'il s'adresse aux Français, on peut imaginer effectivement un ministre chez les Républicains ou en tout cas un centre-droit fort.
Ouais, Éric Métou, vous le voyez dans cette optique-là.
Ils adorent la cohabitation. Ils adorent la cohabitation en théorie. Ils ont quand même puni Jospin d'avoir cohabité de manière assez brutale en 2002. Donc,
et Jacques Chirac également.
Jacques Chirac par ailleurs aussi. Je suis pas certain qu'ils
aiment.
Non, mais ils aiment bien regarder Borghen à la télé. Voilà. Après, ils aiment bien aussi l'homme fort. Macron, il incarne ça quand même. Enfin,
il a dit jupitérien.
Voilà. Plus que fort, jupitérien.
Après, maintenant. On parle du choix de son ministre.
Parce qu'on dit plus gaulliste, on dit jupitérien.
Voilà, c'est ça. Jupitérien.
Mais c'est quand même l'élection de Macron, c'est quand même un symbole fort à cet égard. Hein. C'est le type qui s'est fait tout seul, qui est monté en un an, qui a pas d'appareil, pas de parti, qui est sorti de nulle part. C'est vraiment il est jeune, hein, c'est un gamin, mais c'est le gamin providentiel.
Alexis Massard, je sais que vous avez beaucoup travaillé en tant que politologue sur le centrisme en politique. Pour vous, est-ce qu'aujourd'hui Emmanuel Macron, est-ce qu'il incarne le centrisme en politique?
Oui, pour la première fois, on a vraiment l'arrivée au pouvoir du centrisme. Alors, c'est toujours compliqué à définir le centre, puisqu'on n'aime pas trop ça en France, dans un système bipolaire, donc on est toujours plutôt de centre-droit ou de centre-gauche. Hein, généralement, on s'insulte d'un côté comme de l'autre, en disant « le vrai, c'est moi ». Là, pour une fois, honnêtement, il y a véritablement un discours qui a été construit dans un environnement qui fonctionnait, ce qui n'a pas été le cas de Bayrou, qui avait construit à peu près le même type de discours, mais au moment où le système politique n'était pas suffisamment attaqué.
En 2007.
En 2007.
Et 2012.
Ce qu'il avait fait de 19% c'est à peu près, donc il y a 10 ans. Mais le système politique n'était pas prêt. Aujourd'hui, donc ce discours fonctionne. Et c'est là que ça implique pas mal de choses dans les décisions immédiates d'Emmanuel Macron. Un, je pense qu'il doit s'adresser avant tout à la France. C'est-à-dire qu'il a construit un discours, il faut qu'il soit cohérent. Je veux dire, si les premiers jours de son mandat, on le sent déjà un peu parjure, je n'ose imaginer ce qu'on aura dans 5 ans. Donc il doit tenir la route. Raison aussi un peu de la violence vis-à-vis de Valls, ce qui a été envoyé à Bruno Le Maire n'est pas beaucoup plus... sympathique. Ceci étant, pour l'objectif de Premier ministre, oui, il aurait intérêt à aller chercher quelqu'un issu davantage de la droite ou du centre-droit. Parce que j'entends beaucoup parler des Républicains, mais il ne faut pas oublier qu'il y a l'UDI aussi qui existe.
Oui, mais alors l'UDI est avec les Républicains, vous savez.
Oui, mais en 88, le moment où il avait fallu soutenir le gouvernement Rocard, l'UDF, donc l'ancêtre de l'UDI, s'était coupé en deux avec un nouveau groupe UDC, Union du Centre, qui soutenait Rocard. Donc là, il y a une option...
Ça nous promet des choses palpitantes, là, pour l'avenir.
C'est pas terminé.
Alors justement, Valérie Debord, juste une dernière question. Vous présentez des candidats qui se disent donc justement des Républicains et du Centre. Ça veut dire donc, pour vous, Emmanuel Macron est-il un président centriste ?
En fait, on le saura après le deuxième tour des élections législatives, quand nous aurons gagné et que nous aurons une majorité.
D'accord.
Et nous verrons effectivement...
Mais sur la démarche.
Non, mais très, très sincèrement, je pense qu'aujourd'hui, on peut sauver Emmanuel Macron de la gauche. Il faut le sauver de la gauche.
Oui.
Parce qu'il est cornérisé complètement à gauche. Et c'est avec un projet de droite, clairement, avec des propositions sur lesquelles on peut se retrouver, mais c'est le deuxième tour des élections législatives qui vont pouvoir le permettre.
Mais les gens de gauche disent qu'il est cornérisé à droite.
Et
vous savez, c'est très un peu compliqué.
Très sincèrement, quand vous regardez son entourage, c'est quand même pas forcément facile à vendre. Mmh. Enfin, c'est un point de vue.
Bien sûr, c'est le vôtre.
Après, nous allons sous nos couleurs, qui sont un socle très clair avec une alliance, les Républicains, UDI.
Donc le centre, là.
Et nous souhaitons gagner ces élections législatives, et nous allons les gagner. Et après, nous travaillerons ensemble, mais sur une base programmatique qui sera celle définie par les Français, qui restera celle des Républicains et de l'UDI.
Donc, pour l'instant, on ne peut pas dire pour vous que c'est un président centriste. Pour l'instant, on verra après. Voilà. En tout cas, il y a beaucoup d'étapes encore pour Emmanuel Macron. Merci beaucoup. D'ailleurs, Valérie Debord est passée ce soir aux Informés de France Info. Merci Alexis Massard, merci Audrey Goutard. Éric Métou, la une de l'Express cette semaine.
Un spécial... Élection, titré Le Kid.
Le Kid, voilà. Et c'est Emmanuel Macron, bien sûr, en couverture. Allez, il est temps pour nous de retrouver Mathieu Maestrachi. Bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous.
Pour le Classico.
Oui.
Alors, au programme, ce
et
soir.
On va suivre en direct la deuxième demi-finale retour. Elle a déjà commencé de Ligue des Champions entre l'Atlético et le Real Madrid. Alors, sans trop de suspense, un peu comme Monaco hier soir, puisque le Real a remporté le match aller 3-0. Mais c'est aussi ce qui fait le sel du football, son charme de suivre ça. On va revenir justement sur cette élimination monégasque. Et on va se demander si la Juve, qui a éliminé Monaco hier soir, peut battre le Real en finale si le Real se qualifie, évidemment.
Voilà, j'ai même ouï dire sur le programme qu'il y aura peut-être un peu de rugby. Peut-être
tout à fait,
aussi,
tout à fait.
Voilà, c'est pour ça qu'on en parle depuis tout à l'heure, donc nous sommes un peu tendus, vous savez. Mathieu, voilà, le Classico, votre débat sport, c'est dans quelques minutes sur France Info.